connaissez les sept merveilles du monde antique? Qui les connaît? Hein? Oui, bon, je vais vous les répéter, sinon, si on attend. Hein, ça, c'est du monde antique. Hein. C'est les pyramides de Khéops. Le deuxième, c'est les jardins suspendus de Babylone. Il paraît que c'était merveilleux. C'est pour ça qu'ils les ont mis là. Hein. La statue de Zeus à Olympe. Le temple d'Artémis en Turquie. Il se trouve en Turquie. Hein. Le mausolée d'Hélicarnasse. C'est un mausolée de funéraire. Toujours en Turquie. Hein. Il y a les colosses de Rhodes aussi. Et il y a les phares d'Alexandrie. Ça, c'était les sept merveilles du monde. Mais il y a aussi sept merveilles du monde moderne, aujourd'hui. Vous les connaissez, hein? Non, mais je vais vous les lire aussi. Hein? C'est la Grande Muraille, ainsi, en Chine. Deuxième, c'est la cité de Petra. Hein, vous savez, la Bible en parle. Hein? C'est là que Dieu va mettre à l'abri son peuple. Hein? Petra. Troisièmement, c'est la statue de Christ Rédempteur à Rio de Janeiro. Quatrième, c'est les Machu Picchu, au Pérou. Aussi, il y a le Chichen Itza au Mexique, les Aztèques. Ensuite, chez moi aussi, les Colisées. Et septième merveille du monde, c'est le Taj Mahal, hein, aux Indes. Hein, ce grand temple qu'il avait construit pour donner honneur à son épouse. Hein. Voilà, sept merveilles du monde. Ce matin, moi, je vais vous présenter la huitième merveille du monde. Je ne sais pas qui c'est qui la connaît. Vous ne serez pas venu pour rien. Hein? Et cette merveille du monde, cette huitième merveille du monde, ce n'est pas comme celle-là. Du monde antique, il n'y a plus rien qui est resté, à part la pyramide, mais il est dans un sale état. Hein? Dans le monde moderne, ce sont toutes de belles choses, mais Pierre il nous dit qu'il ne va rien rester. Mais la huitième merveille du monde, c'est ce que la Bible nous présente. Et c'est un peu la suite du ciel de la semaine dernière. Ce que le Seigneur il nous présente, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. Nous allons voir, ouvrez le livre d'Apocalypse. Chapitre 21. Verset 1, il dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Voilà, terminez la terre, tout va disparaître, tout va être réduit en sang. Et Dieu, il va faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre, tout va disparaître. Et je vis descendre du ciel sur la nouvelle terre. Pourquoi elle est descendue du ciel? Parce que c'est une nouvelle terre purifiée, sainte. Et alors, qu'est-ce qu'il voit? Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Jérusalem céleste, l'habitation de tous ceux qui ont Jésus en tant que sauveur et de tous ceux qui ont mis leur foi dans les dieux tout-puissants. C'est notre habitation. Et aussi, prenez le verset 9, toujours 21. Il dit, puis Un de sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Vous voyez, l'aspect de cette ville, Jérusalem céleste, elle avait la gloire de Dieu. Qui c'est qui a la gloire de Dieu aujourd'hui, et on l'aura un jour? C'est l'Église. Paraît comme une épouse. Et cette Jérusalem terrestre, il descendait du ciel. Dieu l'a préparée, Dieu l'a lavée, il l'a purifiée, il l'a fait descendre ici-bas sur terre. Pourquoi? Parce que le souhait de Dieu, ça a toujours été de demeurer auprès de son peuple. Et cette Jérusalem que nous avons ici, nous allons voir, c'est la huitième merveille du monde. Et nous allons la regarder ensemble. Hein, parce que lorsqu'on va partir en voyage pour visiter une ville ou un pays, on va toujours pour regarder les choses les plus belles, n'est-ce pas? Et nous allons voir comment elle est, cette Jérusalem céleste. Donc, laissez votre esprit se laisser prendre à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Car c'est Dieu qui parle. Et nous savons que Dieu, lorsqu'il nous dit quelque chose, c'est la vérité. Ne commençons pas à dire, « Wow, c'est Dieu qui parle. » Et nous croyons Dieu, et pas ce que les gens disent. Hein? Regardons la splendeur de cette cité. Il nous est dit ici, rempli des gloires. Il sera un endroit glorieux, glorieux et splendide, à la fois à cause des choses qui n'y sont plus et des choses qui y seront. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'il n'y aura plus dans cette cité ? Dans cette Jérusalem céleste, des choses qui nous font vraiment plaisir qu'il n'y soit pas. Premièrement, hein, il nous a dit, chapitre 21, le verset 1, il n'y a plus de mer. Vous imaginez la terre d'aujourd'hui, il n'y a plus de mer. Ce serait invivable. Mais là, dans la Jérusalem céleste, dans la nouvelle terre, il n'y a plus de mer. Pourquoi? Parce que Dieu est suffisant en toutes choses. Nous, nous avons besoin de la mer, mais Dieu, non. Dieu, il peut tout nous donner. Et c'est étrange qu'il ait dit, et dans cette nouvelle terre, il n'y a plus de mer. Il n'y a plus de mer. Deuxième chose au verset 27, et chose très importante, il nous a dit, il n'entrera chez elle rien d'essuyé. Plus de péché. Dans cette nouvelle terre, dans cette Jérusalem, plus de péché. Quelle joie, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, notre vie est remplie de tentations, de péchés, de séductions. Mais dans la Jérusalem céleste, plus rien de tout ça. Et aussi au verset 4, 21 et 4, on ne va pas tout lire, sinon on va être là une heure, hein? Au verset 4, plus de mort. Plus de mort. Pourquoi? Parce que la mort a été vaincue. Et nous avons la vie éternelle, hein, et pour grâce à Jésus-Christ. Plus de mort. Toujours au verset 4, plus de cris. Cris de souffrance, de peine. Plus rien. Plus de douleur. Plus de douleur. Et au verset 25, plus de nuit. Plus de nuit. Le jour, toujours, parce que la gloire de Dieu, il donnera la lumière dont nous avons besoin. Plus de nuit. Il continue. Plus de temples. Pas besoin des temples. Pourquoi? Parce que le temple est avec nous. Il sera avec nous, en nous et pour nous. Aussi, il nous est dit, au chapitre 22, verset 3, il nous est dit, plus d'anathèmes, plus de malédictions. Pourquoi plus de malédictions? Parce que c'est une nouvelle terre. Dans notre terre aujourd'hui, cette terre, elle est maudite. Mais, et cette terre aussi, elle attend la venue de Jésus-Christ. Parce qu'à la venue de Jésus-Christ, justement, cette terre, il va être changé. Comme tous, il va être changé ici-bas. Lorsque le règne de Dieu, il sera ici-bas, sur terre. C'est quelque chose de merveilleux. Et encore, chapitre 21, 23, plus de soleil. Pas besoin du soleil pour avoir la lumière. Cette ville sera toujours dans la lumière. Et Jésus est la lumière. C'est lui qui nous donnera cette lumière. Pas besoin de soleil. Verset 23, toujours, la lune, plus de lune. La lune, c'est, il nous a été donné pour nous éclairer la nuit. Mais comme nous serons toujours dans la lumière, plus de lune, c'est terminé. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est terminé. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière. Et cette ville, elle sera complètement illuminée par la gloire de Jésus. Et une autre chose qu'on voit, chapitre 20, verset 10, plus d'opposition satanique, plus aucune tentation, plus aucun péché. Parce que dans le chapitre 20, il nous est montré que lorsque Jésus va revenir pour le millénium, il va prendre Satan et il va l'enchaîner pendant 1000 ans. Ensuite, il va être libéré. Et c'est là qu'il va se rebeller encore une fois. Et c'est là que Jésus, il va le détruire. Et il va l'envoyer en enfer. Parce que c'est là sa place. C'est là sa place. Aujourd'hui, je vous le disais ce matin, il y a dans différents endroits où ils enseignent des choses que la Bible ne dit pas. J'ai écouté à la radio et ils disaient que tous ceux qui meurent, ils iront en enfer. Ils meurent et ils vont en enfer. Ça, c'est quelque chose anti-biblique. Et je vous l'ai dit très, très, très souvent. L'enfer, dans Matthieu 24, il a été fait pas pour l'homme, mais pour les diables. Pour les diables. Voilà pourquoi, à ce moment-là, Jésus-Christ, il va les prendre et il va les jeter dans l'enfer. Parce que c'est sa place. Et automatiquement, en enfer. Ils iront tous ceux qui ont fait la volonté du diable, au lieu de faire la volonté de Dieu. Mais on voit ici que c'est un endroit merveilleux. Nous vivrons vraiment la vraie vie. Et cette vie, Dieu la réserve pour tous ceux qui lui ont fait confiance. Alors, à chacun de nous de prendre cette décision. Est-ce que je désire habiter cette huitième merveille qui ne passera pas. Parce que c'est quelque chose qui demeurera pour toujours. C'est quelque chose de fantastique. Il faut se tourner vers le Seigneur. Cette ville, il aura la lumière de Jésus-Christ. Toujours dans la lumière. Et l'enfer, il sera dans la nuit complète. Parce que Dieu n'y est pas, mais dans la souffrance, dans les peines. Tout ce que nous n'avons pas dans la cité céleste, en enfer, ils auront la souffrance. C'est quelque chose de très difficile. Ensuite, lorsqu'on fait une visite, qu'est-ce que c'est qu'on voit? C'est les différents sites du ciel. Comment elle est composée, cette Jérusalem? Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir? Pourquoi elle est si merveilleuse, cette cité? D'abord parce que c'est Dieu qui l'a construite. Hein? Mais en regardant plus en profondeur, nous y voyons différentes choses. Regardez le verset 16, par exemple. Prenons même le verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Un roseau. C'était une. Pour mesurer à cette époque-là, un roseau, c'est 3 mètres. Donc, il y avait quelqu'un qui. Il a mesuré toute la ville. Et nous avons la description, verset 16. La ville avait la forme d'un carré. La Jérusalem céleste, un carré. Longueur, largeur et hauteur. Hein? La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec les roseaux et trouva 12 000 stades de longueur. Vous me direz, c'est quoi cette heure? Je lis ici l'explication qu'il donne. 12 000 stades, cela représente 2 200 kilomètres carrés. Est-ce que vous vous imaginez? Moi pas, j'arrive pas. Hein? 2 200 kilomètres. Hein? Ou si vous voulez, 3 200 000. Imaginez-vous, ça, c'est quelque chose. Et encore, imaginez ça. Et cette ville, il descend sur terre. Donc, s'il descend sur terre, c'est qu'il y a beaucoup d'autres espaces tout autour. C'est quelque chose de fantastique. Hein? Et il continue, et il dit, d'espace au sol, plus qu'il en faut pour contenir tous les saints, depuis le commencement jusqu'à la fin, là. Il paraît 1 000 milliards de personnes ils pourront y habiter. Ils ont vu l'étendue de tous ces kilomètres et ils ont estimé qu'ils pourraient y habiter 1 000 milliards de personnes. C'est un chiffre inimaginable, n'est-ce pas? C'est un peu comme aujourd'hui, vous savez, lorsqu'il y a des manifestations, ils te disent, oui, il y a 100 000 personnes, il y a 200 000, comment il faut en compter? Il paraît qu'ils ont une comptabilité. Hein? Mais là, ils ont fait pareil, à peu près 1 000 milliards de personnes. On parle de la cité, hein? Sans compter autour. C'est quoi la cité? La cité, c'est l'habitation des dieux pour tous ceux qui lui ont fait confiance. Et ensuite, il y a les nations. Imaginez-vous cette nouvelle terre et ce nouveau ciel. Et ensuite, il continue. Il mesura la muraille. Vous savez ce que c'est une muraille? Tout ce qui fait les contours de la ville sainte. Muraille. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Muraille. 140. Il a une largeur de 64 kilomètres. Vous me direz, mais c'est des chiffres. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ça, c'est pour nous montrer combien on est à l'abri dans cette cité de Dieu. À l'abri dans cette cité de Dieu. Et ensuite, il y a les fondements. On pourrait lire tout. Hein? La muraille était construite en jaspe. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. La muraille de toute espèce. Je ne sais pas, j'arrive même pas à imaginer tellement c'est beau tout ça. Des choses qu'on n'a jamais vues. Hein? Les 12 fondements sont faits de pierres précieuses. Hein, il y a l'énumération de toutes les pierres les plus précieuses, pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était des jaspes, le saphir, le chalcédoine, des émeraudes, des sardoines, des sardonyx, des sardoines, des chrysolites, des béryls, des topazes, des chrysophrases, hyacinthes, d'améthystes. Je ne sais même pas ce que c'est tout ça. Hein? Mais ici, il dit que les fondements, ils sont comme ça. Les fondements de cette muraille, de cette cité, avec les pierres les plus précieuses. Et ensuite, il y a les 12 portes. Étaient 12 perles. Aujourd'hui, on voit des perles. Déjà, si on voit comme ça, c'est déjà une grosse pierre. Mais là, c'est des portes. Comment est-ce possible? Dieu, il nous le dit. Et je le crois. Et je le crois. Chaque porte était d'une seule perle. Une seule perle. Et ensuite, il nous dit, la place de la ville était d'or pur. Comme du verre transparent. La rue, il y avait de l'or. Ça, c'est le rêve qu'on a tous, n'est-ce pas, de marcher sur l'or. Eh bien, un jour, nous marcherons. C'est Dieu qui nous le dit. Hein? C'est Dieu qui nous le dit. Hein? Et ensuite, plus loin, il nous a dit que dans cette ville, il y a un fleuve. Je vous l'ai dit, on ne va pas tout lire, sinon on y passera. Mais il y a un fleuve qui sort du trône de Dieu. Et ce fleuve, il va arroser toute la ville. Et tout autour de ce fleuve, tout le long de ce fleuve, il va y avoir des arbres. Pas un arbre de vie, mais des arbres de vie qui serviront à la guérison ou au bien-être de toutes les nations. Vous me direz, mais on est dans une cité céleste, il n'y a plus de morts. À quoi ils vont servir? Mais ce n'est pas parce que les gens ils vont mourir ou ils sont malades, mais ils iront là, à la cité céleste, pour recevoir les bénédictions des dieux. Un peu comme dans le millénium, il nous a dit que toutes les nations, une fois par an, ils devront aller à Jérusalem pour rendre gloire et honneur à celui qui est assis sur le trône. Et là, c'est pareil, la Jérusalem céleste, il va être ici-bas, et toutes les autres nations, ils devront venir à la Jérusalem céleste, car c'est là qui sera le trône de Dieu, et c'est là qu'ils doivent venir pour se ressourcer, un peu comme nous, lorsque nous allons au pied de la croix, c'est pour nous ressourcer, et pour recevoir encore des bénédictions. Et il y a aussi encore quelque chose de merveilleux dans cette ville, c'est qu'il y a les trônes de Dieu. Il y a les trônes de Dieu. Et sur ces trônes, il est assis le Dieu Tout-Puissant. Celui que nos cœurs, ils désirent voir. Il désire voir. Un peu comme Paul qui l'a dit, j'aimerais être là-haut, mais je dois encore faire des choses ici-bas. Tous nos connaissances, tous nos frères et nos sœurs qui décèdent, ils sont partis avant nous. Ils sont rentrés à la maison, comme on dit. Ils sont auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils sont au ciel. Et ils voient toutes ces choses-là. Jésus, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque la place, elle sera prête, il va revenir et il va nous prendre. Et ensuite, on va descendre avec lui pour prendre possession de tout ce qu'il nous a promis. Ne vaut-il pas la peine de se juger nous-mêmes et de se dire toutes ces choses-là, je vais les avoir moi aussi. Cette vie de peine que je suis en train de vivre, des souffrances, bientôt tout ça, il va s'évanouir. Et je vais vivre dans un monde merveilleux que Dieu a préparé pour moi. Car vous savez, des fois, en regardant notre vie, on se dit, mais quel avenir je peux avoir ici-bas? Mais Dieu, il nous dit dans Jérémie, j'ai de l'avenir pour toi. J'ai de l'avenir pour toi. Et c'est ça l'avenir que Dieu nous réserve. Alors à chacun de nous de pouvoir saisir cette grâce qui nous vient de Dieu. Et c'est vraiment une grâce, hein, parce que nous ne méritons pas toutes ces choses-là. C'est quelque chose que le Seigneur, il nous a préparé et il nous donne parce qu'il nous aime, c'est tout. Hein. Parce qu'il nous aime. Et cette cité céleste, elle est pour nous. C'est nous. C'est nous. Il y a marqué que Jean, il a vu descendre du ciel. Jean, il était sur terre. Et il a vu descendre sur terre. Descendre la cité céleste. C'est comme une soucoupe volante. Il y a des gens qui vont à droite à gauche et ils cherchent des extraterrestres, n'est-ce pas? Oui, il y a des extraterrestres. Non, il n'y en a pas. La Bible dit que Dieu il a créé la terre et c'est le seul endroit où il y a des habitants, des extraterrestres. Un jour, il est venu un extraterrestre. Vous connaissez qui c'est cet extraterrestre? Mais c'est Jésus. Jésus, il a dit, je ne suis pas d'ici-bas. Je suis venu de là-haut. C'est le seul extraterrestre. Et merci qu'il soit venu, cet extraterrestre. Et de là, ils en ont fait. Mais il n'y a qu'un seul extraterrestre qui est venu. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont cloué sous la croix. Mais Jésus est ressuscité. Et il a dit, je reviendrai. Voilà pourquoi cette cité céleste, nous devons vraiment la voir au plus profond de nous-mêmes. Et se dire, oui, un jour je vais l'habiter. Parce que Dieu l'a préparé pour moi. Mais c'est un peu comme on vient de le chanter. Qui montera à la montagne de Dieu? C'est lui qui a les mains pures. On ne peut pas monter à la maison de Dieu autrement. Il faut avoir le cœur pur. Comment avoir le cœur pur? En ayant Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Car c'est lui qui est mort à notre place pour nos péchés. C'est lui qui nous a préparé cette place. Et c'est lui qui nous a dit qu'il allait revenir bientôt. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir de cela. Et vous savez, hein, il y a tellement de choses qu'aujourd'hui et dans cette vie, ils nous paraissent étranges. Mais tout va être clair à ce moment-là. Hein. Tout il va être clair. Il nous est dit dans la parole, il nous est dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui? Pourquoi? Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie. Ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien. Pas seulement il nous a sauvés, il nous a donnés, mais il nous a préparé une place. Le Seigneur, il ne nous laisse pas tomber. Il ne nous laisse pas tomber. Et il a la toute puissance pour pouvoir le faire. Une seule question, c'est est-ce que vous avez le Seigneur dans votre cœur? Est-ce que vous avez le Seigneur dans votre cœur? Pour terminer, je vais vous raconter une histoire. Elle est véridique. Hein? Il y avait un jeune homme qui va passer la visite médicale et on lui dit, ouais, vous avez un cancer. Alors il rentre à l'hôpital. Et là, il rencontre une doctoresse qui lui parle du Seigneur. Ce jeune homme-là, il se convertit. Mais sa maladie, il était tellement avancé qu'il allait mourir. Alors, ils l'ont ramené à la maison. Il s'est converti, bien sûr. Et chaque jour, il faisait venir ses amis pour leur rendre visite. Et ce jeune homme, il leur lisait la Bible. Il leur lisait la Bible. Et quand il était presque pour mourir, c'était le dernier instant, tout le monde était là. Voilà ce qu'il a dit. Lorsque vous verrez à mon enterrement, ne soyez pas vêtus de noir, mais portez des habits de couleur, car je serai alors dans le ciel, où je me porterai bien. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je veux être avec mon Père dans le ciel. Je ferai la fête là-haut. Faites-la ici-bas. Bien sûr, il y a la tristesse, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un de la famille, il s'en va. Mais dans la joie, parce qu'on sait où est-ce qu'on va. Et il continue. Alors, il a regardé et il a vu la doctoresse qui lui a parlé du Seigneur. Elle pleurait. C'est normal. Voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Je vais vers Dieu, je vais à Dieu. Là, je serai accueilli par des bras ouverts. Alors, sa maman aussi, elle était là, elle pleurait. Il lui a pris la main et lui dit, ne sois pas triste. Je continuerai à être au plus profond de ton cœur, même si je serai près de Dieu. Et il est mort 5 minutes après. Pourquoi il était dans cet état d'âme? Parce qu'il avait Christ dans son cœur. Cela me rappelle notre pasteur Bob qui est décédé. On avait été chanté chez lui avec plusieurs frères et sœurs. Il était couché. Et il a dit, ne me chantez que des cantiques où il y a le nom de Jésus. Et Gaël nous a dit que lorsqu'il a fermé les yeux, il avait le sourire dans ses lèvres. Pourquoi cela? Mais parce qu'il a Christ. Il savait où il allait. Il savait ce que Dieu a réservé pour lui. Sommes-nous conscients de ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes? Oui, je suis chrétien. Oui, mais ça veut dire quoi être chrétien? Tout ce que Dieu nous a préparé, tout ce que Dieu nous donne, même dans cette vie, il nous donne des bénédictions. Jérémie nous dit, les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées, ici-bas sur terre, mais dans le ciel, elles sont encore beaucoup plus nombreuses. Et tout ça, parce qu'on a Jésus-Christ dans notre cœur. Est-ce que vous l'avez dans votre cœur? Si vous l'avez, toutes ces choses, elles sont à nous. Ils sont à vous. On l'a chanté et nous régnerons avec lui. Parce que Jésus est appelé les rois des rois. Il est les rois des rois. Nous sommes des rois. Il est notre roi. Et nous régnerons avec lui. Et nous habiterons cette 8e merveille du monde, la Jérusalem céleste. Nous serons cette Jérusalem céleste. Imaginez-vous toute la beauté de cette ville. Lisez les chapitres 21 et 22 d'Apocalypse. Et ne regardez pas ça comme dire, ah, c'est de l'imagination. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Ne mettez pas de doute à ce que Dieu nous dit. Dieu l'a dit, celui qui croit a la vie éternelle. Et il ne nous a jamais dit qu'un jour cette vie ça va terminer. Non, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Et pour cela, une seule chose à faire, c'est avoir Jésus. Si vous ne l'avez pas, il faut le faire. Car sinon, votre restant de vie, il sera misérable. Et il le sera aussi après la mort. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut nous donner ça. Et en plus, nous savons qu'une fois que cette vie, ça s'arrête, nous vivrons toutes ces choses-là. Il n'y aura pas une réincarnation. On en a parlé un peu mercredi. Il y a ceux qui croient, mais la Bible n'en parle pas. Et nous, nous croyons la Bible. Donc à chacun de nous de prendre cette... Est-ce qu'on veut continuer à vivre? Il faut accepter Jésus-Christ. Car c'est lui, la seule et unique ancre par laquelle on peut être sauvé. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour toutes ces bénédictions. Ces bénédictions qui ont commencé les jours où nous nous sommes jugés nous-mêmes, Seigneur, car c'est là le premier jugement qui doit être exercé, nous-mêmes, oui, c'est dire « je suis pécheur, je ne mérite rien, je mérite la condamnation, les châtiments, car j'ai péché ». Il n'y a personne qui peut dire « ah non, je n'ai pas péché, je ne pêche pas ». Personne. Et nous nous sommes jugés nous-mêmes. Et Dieu nous dit que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Voilà pourquoi Paul il nous dit « il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ ». Oui, merci Seigneur. Car tu nous donnes toute cette grâce, malgré nos manquements. Malgré notre infidélité, tu demeures fidèle. Malgré nos manquements, tu viens constamment à notre secours. Car tu es le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous te faisons confiance en toutes choses. Et nous voulons, Seigneur, nous qui te connaissons déjà, que tu puisses nous aider, Seigneur, à aller vers ceux qui encore ne te connaissent pas. Car c'est pour cela que tu nous as sauvés. Afin que nous puissions leur montrer, Seigneur, le seul et unique chemin par lequel on peut aller vers toi. Mais pour cela, il faut avoir les mains pures. Et si nous nous tournons vers toi, cette belle cité sera la nôtre. Nous l'habiterons pour l'éternité et nous serons éternellement avec toi. Quelle joie, Seigneur! Nous ne méritons pas toutes ces choses-là, mais nous te disons merci, Seigneur, pour avoir envoyé Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir répandre autour de nous cette bonne nouvelle. Et s'il y a ici quelqu'un qui encore n'a pas fait ses pas, il faut qu'il le fasse. Car sans Jésus, il n'y a pas d'avenir. Et pas dire, oui, je suis jeune, j'ai 17, 18 ans, j'ai encore une vie à vivre. Tu ne sais pas. En sortant d'ici, tu peux mourir. Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Pour cela, une seule chose à faire, c'est tourner vers la croix, vers Jésus.